France Inter. Le parfumeur et directeur de la création parfum chez Christian Dior, Francis Curdjian, est aussi directeur artistique de la maison qui porte son nom, cofondée en 2009 avec Marc Chaya. Il est le compositeur, comme il aime employer le mot, de nombreuses fragrances cultes, comme le Mal de Jean-Paul Gaultier, une des fragrances les plus vendues au monde qu'il crée à l'âge de 24 ans, en voulant recréer les sensations olfactives d'une lavande sur la peau d'un homme chic venant de prendre un bain de mer. On lui doit aussi Her et Mr. Burberry pour la marque britannique éponyme, Baccarat Rouge 540 et la revisite des parfums Miss Dior et Eau Sauvage. Impossible de citer tous les succès de celui qui a également imaginé une cinquantaine de parfums pour sa maison et a commencé à collaborer avec des artistes dès 99. Considérant le travail du parfum comme une discipline artistique se rapprochant de la haute couture, il a réalisé de nombreuses performances olfactives en France et à l'international, dans des lieux comme le Grand Palais, le Château de Versailles, la Villa Médicis, la Grande Mosquée de Paris, la Fondation Pierre Berger Yves Saint Laurent, l'ambassade de France à New York, le Spedale degli Innocenti à Florence ou encore à Shanghai ou à Milan pour les expositions universelles de 2010 et 2015. Bulles de savon, brumisateurs, neige artificielle, fontaines et murs d'eau enveloppent les nez des spectateurs et humeurs pour des expériences sensorielles, mêlant le parfum à d'autres médiums. Il en rassemble une variété au Palais de Tokyo à travers son exposition Parfum, Sculpture de l'invisible, 30 ans de création de Francis Curdjian du 29 octobre au 23 novembre prochain. J'ai cru que je n'arriverais jamais à la fin de cette introduction. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir, bonsoir Francis Curdjian, décidément aujourd'hui je patine.
Bonsoir Eva Bester.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
Le courriel d'un jeune homme handicapé qui a rejoint la maison maintenant il y a 8 mois, 6 mois, que je connais depuis 10 ans. Il a des handicaps qui ne sont pas visibles, mais il avait du mal à s'insérer dans une maison. Et depuis qu'on s'est lancé le défi avec notre directeur général, de l'accueillir, de lui ouvrir les bras, j'ai sensibilisé tout le personnel avec lequel il était en contact. Et j'ai reçu hier un email parce qu'on lui avait reconduit pour 9 mois son CDD. Et c'est la dernière. Là, ouais, je crois que c'est la dernière chose qui m'enthousiasmait, vraiment. Parce que je l'aime beaucoup, mon Simon. Je l'aime vraiment beaucoup. Je suis très content que mes équipes lui aient ouvert les bras comme. Voilà.
Vous avez employé le mot défi au lieu de challenge et je vous remercie pour ça parce que c'est un combat que je mène d'employer le mot défi.
C'est un très beau mot, le mot défi.
Il est magnifique ce mot.
Très beau.
Pourquoi est-ce que ça y est, tout le monde s'est piqué du mot challenge ?
C'est plus chic, non ?
Non, je ne crois pas.
Non ?
Non. Pour moi, c'est un tue-l'amour. Vous avez étudié la parfumerie et travaillé en France et aux États-Unis. Est-ce que vous avez noté des différences culturelles dans la perception du parfum ?
Il y a des différences culturelles parce que déjà le statut du parfum est différent dans les deux pays. En France, le parfum fait partie du patrimoine parce que nous avons des marques patrimoniales. L'une des plus célèbres s'appelle Guerlain, mais on a eu aussi des grands parfumeurs comme Houbigant, comme la Maison Coty. Les États-Unis sont venus au parfum par deux biais différents. Le premier, c'est par les grands lessiviers, par le produit industriel. Et ils sont venus par le parfum, par le prêt-à-porter. Ils n'ont pas de marque de couture. En Europe, et surtout en France, le parfum est passé du parfumeur. Le mot parfumeur, c'est important de le comprendre, il a deux significations. Il signifie à la fois celui qui compose, mais celui qui vend. Puisqu'à une époque, jusqu'à la fin du 19e siècle, on était parfumeur si on fabriquait et si on vendait le parfum. Et ensuite, c'est la mode qui a préempté le territoire de la création du parfum avec les marques de mode, puisque c'était visible, donc plus facile à promouvoir. Coco Chanel, pour ne citer qu'elle, mais également derrière, il y a eu les maisons comme Lanvin, Rochas, et toutes les maisons de couture devenaient des grandes maisons quand elles préemptaient le parfum. Les États-Unis ne sont pas passés par cette case haute couture, ça ne fait pas partie de leur patrimoine, ils sont passés par la case prêt-à-porter, et donc le parfum aux États-Unis est un peu une commodité. Et donc, il y a des grandes différences, même dans l'idée des... Des grandes, pas iconographies olfactives, mais des grands thèmes olfactifs. Les États-Unis c'est l'idée quand même d'un pays, jusqu'à pas très longtemps encore, qui avait cette idée de la vitalité, de la jeunesse. Donc les odeurs du musc, notamment, il y a une marque très connue qui s'appelait Jovan Musk, qui, dans les années 70, donnait cette idée de propreté slash sensualité. C'est un peu des États-Unis que viennent ces odeurs très puissantes de notes fruitées. Pour une petite anecdote, quand je suis arrivé aux États-Unis en 95, quand j'y ai travaillé, je ramenais mon shampoing de France parce que les notes fruitées des shampoings américains étaient tellement puissantes que le matin, j'avais presque la nausée à me laver la tête.
Et vous ne vous parfumez pas et vos cerveaux sont inodores.
Et je ne me parfume toujours pas. Je suis un peu un grenouille quelque part.
Comment est-ce qu'on parfume une bulle? Parce que là, donc j'étais aux États-Unis, projeté par ce que vous racontiez, Francis Curdjian, vous avez quand même libéré des milliers de bulles parfumées sur la 5e avenue, tout simplement.
Oui.
Vous avez fait aussi la même chose au Grand Palais en 2010 pour la Nuit des Musées. Comment est-ce qu'on parfume une bulle?
Par hasard, je me promenais avec mon associé sur Broadway, bien avant la maison. Donc on doit être en... Est-ce que j'étais avec Marc? Enfin, en tout cas, j'étais sur Broadway, je m'en souviens très bien. Et tout d'un coup, j'ai reçu... Il y a ces canons, ces pistolets à bulles de savon. J'ai reçu une bulle de savon dans l'œil. Et tout d'un coup, j'ai eu une forme de Madeleine de Proust de la douleur. À m'imaginer dans la douche... Je me suis retrouvé presque nu sous la douche avec le savon qui pique. J'ai 57 ans bientôt. Et je suis d'une génération où le savon et le shampoing piquent. Il fallait fermer les yeux. C'est un temps que les moins de...
Non, moi, je
30
connais
ans.
Ce temps.
Oui, voilà, mais vous êtes un peu...
Bon,
si
non,
je peux me permettre.
Écoutez, je n'étais pas née ce soir de nuit.
C'est un temps où les shampoings piquaient les yeux et la mousse piquait les yeux. Et je me suis dit, tiens, ça pique finalement comme le shampoing. Et dans ma tête, comme je pars du principe que tout ce qui se parfume est parfumable et que je peux me permettre de le parfumer, ça m'a donné l'idée de parfumer des bulles de savon. Et l'idée est venue là. Puis elle est revenue en France, parce qu'effectivement c'est au château de Versailles, grâce à Marc Chaillat, que vous avez cité dans la cofondation de la maison. À l'époque, la maison n'était même pas cofondée, mais c'est grâce à lui, parce qu'il était déjà dans mon quotidien de création, c'est grâce à Marc qu'on a réussi à convaincre le château de Versailles de faire ces choses qui me passaient par la tête et que j'ai faites, et que j'ai pu faire, et qui après, effectivement, pour une fête de la musique à New York, nous avons réitéré.
La première fête de la musique américaine.
C'est en tout cas la mienne. Après, je ne sais pas si c'était la première, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, c'était une très très belle soirée qu'on ne pourrait plus refaire aujourd'hui, ça c'est sûr et certain.
Pourquoi ? C'est passé des choses affriolantes ?
Non, parce que je pense que ces premières fois, elles avaient une forme de folie, des choses non cadrées. Vous savez, aujourd'hui, on est presque 20 ans plus tard, en tout cas, c'était 2008, donc c'est pas 20 ans, mais 17 ans plus tard.
J'étais pas née, je sais pas, mais...
17 ans plus tard, les choses sont beaucoup plus cadrées. Maintenant, il y a des principes de précaution à tous les niveaux, ceinture, bretelles.
Vous êtes nostalgique de cela ?
Non, je ne suis pas je pense que quand on devient nostalgique, c'est qu'on commence à être vieux. Quand on commence à dire que c'était mieux avant, c'est que c'est le moment de rajeunir.
Je suis pas du tout nostalgique.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Francis Curdjian, votre grand-mère qui était arménienne est arrivée en France en parlant 5 langues et vous avez dit dans des interviews qu'à partir de là, le niveau d'exigence familiale était très poussé. Chacun devait faire une activité artistique au même titre qu'avoir de bonnes notes. Et donc vous avez commencé la danse à 7 ans. Vous vouliez devenir danseur étoile ?
Oui, tout à fait, danseur étoile, opéra de Paris.
Tout simplement.
Je suis désolé de parler de mon âge, hein, c'est pas une fixette, mais c'est pour juste cadrer les choses.
Bah,
le répertoire de la danse classique dans les années 80, Rudolf Nureyev n'est pas encore passé à l'Opéra de Paris, il n'a pas encore réformé la danse classique et le ballet classique pour offrir aux hommes sur scène, en tout cas, une forme d'expression artistique assez complète. C'était quand même très souvent un peu des morceaux de force. Et un peu porte d'âme, puisqu'on tendait les bras, on soulève les ballerines. Et c'est vrai que les rôles de soliste sont, par essence, les rôles les plus intéressants. Et puis peut-être que j'étais déjà un peu cabot et que je voulais un peu briller, être sous les projecteurs. Et que je voyais peut-être déjà mon nom en haut de l'affiche, comme dirait un compatriote. Mais ça s'est pas fait. Voilà, j'ai échoué deux fois.
Vous êtes blessé.
Au concours technique. Non, je me suis. Alors, avant toute chose, déjà, j'ai échoué deux fois. Alors, j'ai réussi les concours physiques. Donc, a priori, j'avais donc le gabarit et le corps pour. C'est déjà pas mal. Je me réconcilie maintenant avec ça. Comme je prends un peu de bonheur, je me dis, ah, mais t'aurais pu être danseur parce que. Et puis, techniquement, si j'étais vraiment, j'étais pas au niveau. Surtout que les examens à l'époque, à l'école de danse, de l'opéra, étaient faits. Les examens étaient faits à l'Opéra de Paris, dans les salles, sous les toits, en pente. Les salles étaient pentues. Et donc, tenir un équilibre quand on n'est pas habitué, ou retrouver ses marques quand on n'est pas habitué sur des salles pentues, ça, y a un petit côté un peu cirque Pindare sur le sujet, et je n'ai pas du tout été bon. Et je pense que j'étais peut-être pas assez doué. J'aimais la souffrance.
Vous aimiez la souffrance ?
Oui, je pense, parce que quand on est... Oui, parce qu'il faut quand même... Enfin, disons que je l'aimais, je ne la redoutais pas. Donc, c'était pour moi une grande qualité. En revanche, j'étais juste peut-être pas assez bon. Et puis, c'est ce qui m'a permis d'être en face de vous aujourd'hui en tant que parfumeur.
Bien sûr, puisque vous avez aussi voulu être grand couturier.
Ouais, mais enfin, je ne sais pas dessiner.
Qui
mais
était
je ne sais
tailleur,
pas,
voilà.
je sais pas dessiner. mais je ne sais pas dessiner.
Mais vous aviez une tante qui était modéliste chez Dior, là où vous œuvrez aujourd'hui.
Exactement,
c'est pas anodin.
Françoise. Ah, la rencontre avec Dior, est-ce qu'elle n'est pas anodine ?
Bah, vous avez déjà œuvré pour la maison il y a quelques années, et là vous êtes directeur de la création de parfums depuis 2021.
Alors, si j'évite de réactiver, en étant chez Dior, j'évite de réactiver tout ce qui est de l'ordre du signe,
d'accord.
De la superstition.
Parce que vous êtes très superstitieux.
Parce que j'ai grandi dans une famille très superstitieuse. Non pas très superstitieux, mais qui faisait attention à beaucoup de choses. On se gratte, par exemple, on se gratte la paume de la main, on se pince la fesse, quand on se frotte le nez, ça veut dire encore autre chose. On lit le marc, ma grand-mère m'a appris à lire le marc de café, le vendredi seulement.
oui,
ma
d'accord.
mère faisait tourner les verres et les tables avec ses copines
c'est
et ses amis. J'ai fait ça, tout à fait, j'ai fait ça également avec ma sœur en tant qu'ado. Plus
vous avez
tard,
fait du spiritisme ?
J'ai fait du spiritisme, tout à fait. Non mais tout à fait, oui, tout à fait. Voilà.
Et vous avez vu des manifestations ?
Et on a eu des manifestations et ça fonctionne très très bien. Et j'ai à la fois beaucoup ri et parfois eu peur le soir en montant dans ma chambre. Donc voilà, donc en rentrant chez Dior, là, ce que j'avais occulté est tout d'un coup ressurgi, puisque Christian Dior était très superstitieux, très anxieux également, et il soignait certainement son anxiété en consultant des voyantes. De temps en temps, je laisse la porte ouverte parce que un signe, une formule qui tombe sur le... un numéro de formule qui tombe sur le chiffre 8, c'était son chiffre préféré, je compte... Voilà, il y a des choses comme ça que je laisse transparaître. J'ose croire que sur plein de sujets, je suis arrivé... l'annonce de ma nomination chez Dior est arrivée, c'était un chiffre 8, quand je fais l'addition des chiffres. Je suis arrivé le 18 octobre...
J'ai ouvert une
dans
porte.
Dans la maison. Non, mais je peux faire beaucoup... voilà, on peut tenir une émission sur le sujet.
Bon, alors, je vais revenir à des choses plus prosaïques. Qu'est-ce qu'un... Vous avez revisité l'eau sauvage.
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 Pour l'instant.
En
oui.
eau sauvage.
Non, pas encore.
On
regarde Sauvage comme une pièce du patrimoine français pour l'an prochain, effectivement, mais c'est Sauvage.
Pardonnez-moi.
Non, je vous en prie.
Vous avez revisité Sauvage. Qu'est-ce qu'un flanker dans le jargon de la parfumerie ?
C'est peut-être plusieurs choses à la fois. Un flanqueur, en général, c'est une manière opportuniste de revenir et de refaire parler d'un parfum. Et moi, qui ai connu l'époque où on a commencé à créer des flanqueurs, ça a été une époque parce que pour plein de raisons, c'est un peu compliqué, mais pour plein de raisons, tout d'un coup, on va créer des déclinaisons successives d'un même parfum qui a pu avoir un succès. Il y a, je dirais, des bons flanqueurs ou des bonnes déclinaisons. C'est un mot anglais, vous qui n'aimez pas les mots anglais, donc je pense qu'il vaut mieux parler de déclinaison.
Moi, j'aime bien waffle pour les gaufres.
Ah bon ?
Oui. Oh, vous méprisez.
Mais non, parce que gaufre dans la bouche, ça remplit la bouche gaufre.
Mais gaufre, c'est moche, alors que waffle, c'est comme un waffle. Chien rebondissant waffle. Très rigolo.
Pourquoi pas ? Je ne voyais pas comme ça. Oui, mais pour moi, quand on dit waffle, ça ne me donne pas envie de manger une gaufre. J'ai l'impression d'avoir un chien mouillé qui fait waff waff.
Ah oui, non, alors un chien mouillé,
laine
oui.
Du chien.
Ah oui, là, non.
Voyez,
alors là, la
waffle.
Laine plus le chien mouillé, c'est trop.
Mais donc les déclinaisons. La déclinaison, voilà, pour moi, il y a des déclinaisons entre guillemets réussies. C'est quoi une déclinaison réussie par rapport à un flanqueur ? Parce que pour moi, je le vois comme ça. Bah, la déclinaison, elle poursuit l'histoire, elle décline l'histoire dans une variante qui reste fidèle à l'historicité et à l'origine de la note. Je peux vous donner des exemples.
Hein. J'adore, vous avez pensé au... Parce que le processus alchimique...
Alors, j'adore, ça a été... Quand on a déroulé pour les 4-5 prochaines années, quand je suis arrivé dans la maison, un peu le plan de création, et qu'on m'a demandé de regarder qu'est-ce que je pourrais apporter à J'adore, déjà. Donc, il y avait eu J'adore l'or. Et comme je disais à un moment donné aux équipes, mais on peut adorer plein de choses. J'adore mon père, j'adore les vacances ou ma maison de campagne, j'adore manger. Mais j'ai retourné l'histoire en disant l'or de J'adore. Et tout d'un coup, l'or de J'adore, bah, c'est en fait, ça devient le cœur de l'histoire, redevient J'adore. Et l'or de J'adore, c'est quoi? Ce sont ces fleurs, puisque le parfum J'adore, qui a été composé en 1999 par Calice Becker, avec un parfumeur avec lequel j'ai travaillé à l'époque, nous étions à New York ensemble. J'adore, ce sont les fleurs. Et l'or de J'adore, ce sont les fleurs de J'adore. Et à partir de ça, j'ai commencé à raconter une histoire, à me raconter une histoire, qui m'a permis en fait de recomposer autrement J'adore, puisque le motif, les fleurs de J'adore, si J'adore était un tableau, ça serait un peu un tableau impressionniste ou pointilliste. Plein de petites touches, plein d'ingrédients qu'on juxtapose pour créer ce grand motif floral. Et finalement, quand j'ai composé l'or de J'adore avec la personne avec qui je travaille encore aujourd'hui, on s'est posé la question sur c'était quoi l'or de J'adore. Mais en fait, pour avoir de l'or pur, il faut fondre l'or jusqu'à temps que l'or devienne tellement liquide que les impuretés s'évaporent. Et je me suis dit, si je fais fondre J'adore, si je fais fondre ces milliers de points, qu'est-ce qui va rester? Et il va rester finalement des grands aplats comme un peu des grandes choses, voilà, des grands aplats de couleurs qui vont faire qu'on va essayer d'avoir une quintessence de ces fleurs. Et c'est en construisant cette narration que j'ai pu composer ce parfum.
Alors vous êtes assurément synesthète, et puis il y a une chose qui est frappante aussi, c'est que vous avez toutes les matières premières en tête, et que pour vous la création, ça se passe d'abord de façon mentale. Vous êtes capable de composer beaucoup. Et vous pouvez composer avec une feuille et un stylo, un parfum.
Oui,
sans flacon, parfum, sans odeur.
Alors un parfum, déjà on utilise le mot composer. Donc composer, ça pourrait se rapprocher par exemple de la musique.
Et si une on partition.
Fait d'une partition, et si on fait le rappel, et si on fait le parallèle avec la musique par exemple, et on va essayer d'aller dans cette idée-là. La musique est invisible, le parfum l'est aussi. Quand un son vient à vous, vous savez d'où il vient, mais vous ne voyez pas forcément ni la voix, ni l'instrument. Quand une odeur vient à vous, vous ne savez pas forcément, vous savez d'où, vous pouvez humer l'air parce que ça va dans le sens du vent, mais quelque part, vous ne savez pas d'où, qui émet la source. Quand vous vous souvenez d'un parfum, il y a deux choses qui se sont passées au moment où vous vous souvenez d'un parfum. C'est comme quand vous vous souvenez d'une musique. Vous vous souvenez d'une musique, pourquoi? Parce que vous l'avez entendue, mais aussi parce qu'elle est singulière. Parce que tout d'un coup, si c'est une voix, la voix, le timbre, si c'est une musique, parce que la mélodie est singulière. Un parfum, quand vous en souvenez, c'est parce que vous l'avez senti, et qu'il était suffisamment puissant pour que votre mémoire olfactive le mémorise. Et en fait, si on imagine toujours ce parallèle entre la musique et le parfum, certains ont appris le solfège. Moi, j'ai eu cette chance petite. On m'a mis au solfège et à la musique, et c'était un peu complexe parce que c'est pas agréable. C'est un peu laborieux, l'apprentissage du solfège. Le solfège, c'est pas que la clé de sol, c'est la clé de fa, mais c'est la clé de fa 3, la clé de fa 4, les clés d'ut. Il y a plusieurs types de clés, et quand vous connaissez cette langue étrangère et que vous arrivez à la lire, vous n'avez pas besoin d'instrument de musique pour la déchiffrer, puisque vous pouvez vous fredonner les notes dans la tête, puisque je les ai apprises. La différence, c'est qu'on apprend la musique quand on a la chance, parce que voilà, c'est une question aussi d'opportunité, on a le cerveau très malléable, 5, 6, 7, 8 ans, c'est facile. Si on donnait, et si quelqu'un m'entend, je rêverais de créer la semaine du goût, et de l'odorat, et de raccrocher dans les écoles l'odorat au goût, pour redonner aussi à l'odorat ses lettres de noblesse. Mais moi, quand je lis, entre parfumeurs, on s'échange des formules, à partir d'une certaine, avec une certaine expérience, on est capable, non pas de sentir exactement à la virgule près ce qui se passe, mais on sait de quoi on parle, et on va comprendre ce qui se passe, et avec une certaine dextérité, à un moment donné, moi je viens d'un... Mon maître, Françoise Caron, quand elle prenait mes formules en face de moi, je lui tendais la formule au bureau, elle prenait son crayon, elle regardait, et ligne après ligne avec sa règle, elle regardait, elle me mettait des flèches, tu devrais monter, tu devrais descendre, t'as voulu dire quoi, fais ci, fais ça. Et quand je repartais au laboratoire faire peser la formule, gloire à Françoise, ça sortait quasiment parfait. Donc c'est comme de la composition musicale ou même comme la littérature, parce que finalement, on apprend à lire et à écrire.
Vous savez ce qu'on prend en arrivant à Saint-Domingue ? Un dîner terrible, c'est moi qui paye.
Écoutez, je ne peux pas vous amener à Saint-Domingue.
Mais alors qu'est-ce qu'on fait ?
Je vous ramène.
Où ?
À d'où vous venez ?
Non mais ça va pas ! Vous êtes complètement fou ! J'ai quand même pas fait tout ça pour retourner là-bas !
Et moi j'ai pas fait tout ça pour aller me balader à Saint-Domingue ! Je ne fais pas les promenades en mer !
Bon alors si c'est comme ça, je reste !
Quoi, ici ?
Oui, ici. On est très bien, non ?
Je suis très bien. Et je suis très bien parce que je suis tout seul, c'est clair ? Bon alors maintenant embarquez parce que j'ai pas que ça à faire et pour moi c'est du temps perdu.
Voilà, Francis Curgeon, je vous ai mis une Madeleine de Proust.
Vous avez perdu.
Bah, Le Sauvage de Jean-Paul Rapneau, oui. Dans lequel Yves Montand joue un parfumeur en cavale. Et ça a été un déclic pour vous.
Ça fait ce film fait partie des déclics. Le déclic avec Le Sauvage, il y en a deux. Le premier, quand j'étais jeune, j'étais adolescent, j'ai vu le film à la télévision. C'est qu'à plusieurs reprises, Yves Montand évoque la parfumerie. On voit son bureau avec... Catherine Deneuve s'aventure sur son bureau et découvre un peu et sent des petites fioles éparpillées sur son bureau. Et à un moment donné, ils sont dans une scène assez mythique où ils sont tous les deux nus après l'amour et il évoque sa vie d'avant, sa vie à New York notamment, sa vie de grand parfumeur. Il cite des noms de parfums avec des choses comme ça très techniques. Et ce sont des très très beaux moments à la fois d'intimité et même de métier puisque, à ma connaissance, et je l'ai dit, j'ai eu cette chance de rencontrer Jean-Paul Rapneau. Je lui ai déjà félicité de la précision avec laquelle il avait décrit le métier de parfumeur, parce qu'il y a, à ma connaissance, aucun autre film qui dépeint le métier aussi, à la fois précisément, sensiblement, mais également avec des enjeux économiques qui, déjà dans les années 70, émergeaient. Et c'est une vision par rapport à ce que je peux vivre aujourd'hui assez exemplaire.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Francis Curgeon, au Palais de Tokyo, à partir du 29 octobre prochain et jusqu'au 23 novembre, il y aura l'exposition Parfum, sculpture de l'invisible, 30 ans de création de Francis Curgeon. C'est vous, ça tombe bien. C'est une déambulation olfactive grâce à laquelle vous avez joué avec l'espace, la lumière, le son, la matière. Et vous avez apporté un très beau coffret que je pensais évidemment que je pourrais vous voler, mais pas du tout. Vous
pas avez... encore.
Non, c'est un coffret qu'on pourra se procurer sur place.
Oui, tout à fait.
Enfin, en échange d'argent, évidemment.
Oui.
Vous qui avez aussi fait l'odeur de l'argent en parfum.
Exactement.
Et pour Sophie Kahl, l'odeur est dedans.
Tout à fait, puisque c'est grâce... C'est la rencontre intellectuelle avec Sophie Kahl qui m'a fait prendre réalité et conscience, non pas conscience, mais qui m'a fait prendre la réalité que je pouvais prétendre ou peut-être ouvrir un chemin dans le parfum et dans l'odeur autre que celui du sang bon.
Vous avez fait plein de collaborations avec plein d'artistes.
À partir de ce moment-là, des opportunités se sont présentées à moi en rencontrant des artistes, différents styles.
Anne-Sophie Pic aussi, la chef.
C'est Anne-Sophie Pic qui est venue me chercher, mais j'ai eu beaucoup de chance en fait. C'est un intermédiaire qui m'a présenté à Sophie Kahl, mais je n'avais pas demandé. C'est Anne-Sophie Pic qui est venue me chercher. Alors, Cathy et Maria Labec, c'est moi qui suis allé leur demander, qui sont des pianistes. Même Christophe Michalak, ça s'est fait de manière souvent fortuite, mais comme si mon envie était devancée par ces rencontres. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
Alors comment est-ce que vous avez imaginé l'exposition ? Parce qu'il y a à la fois des œuvres que vous aviez conçues il y a des années que vous reprenez, et des choses inédites.
Alors, quand mon associé m'a lancé, non pas le défi, mais... a dit finalement, cette année qui correspond à tes 30 ans de carrière par rapport à la création du mal de Jean-Paul Gaultier, il faut faire bien plus que cette célébration-là, qui ne nous appartient pas, parce que c'est aujourd'hui le parfum et la maison de Jean-Paul Gaultier appartiennent à un groupe avec lequel je n'ai plus aucun lien. Déjà, moi j'étais un peu frileux sur cette idée de rétrospective, donc c'est à lui que je dois quand même le fait de pousser, de nous donner, d'impulser à la maison cet élan. Et je me suis dit, il faut que ça soit un tiers qui ait de la distance par rapport à mon travail, c'est pas moi qui peut faire cette curation de projet. Donc j'ai demandé à quelqu'un que j'ai rencontré très tôt également, vers 2008, à qui je dois quelques installations, parce qu'il a été, à la fois attaché culturel à l'ambassade de France à New York, c'est Jérôme Neutre.
Vous l'avez choisi pour son nom ? Jérôme Neutre pour
Je pourrais, mais surtout parce qu'il m'a accompagné pendant, à plusieurs reprises dans ma carrière, parce que grâce à lui et à sa vision qu'il avait aussi de mon métier, j'ai pu faire des choses. Vous mentionnez le Grand Palais, les bulles et Noctambules, le Grand Palais. Jérôme était conseiller à l'époque de Jean-Paul Cluzel, et c'est grâce à ce tandem qui nous a accueillis au Grand Palais, la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent, il était conseiller également de Pierre Berger Yves Saint-Laurent, et c'est aussi Jérôme qui m'a appelé pour faire une espèce d'œuvre un peu totale, où il y avait cette correspondance parfum, enregistrement audio, sur une très belle scénographie de Nathalie Crinière à l'époque. Et donc ça me paraissait normal que Jérôme, qui connaissait un peu mon travail, et surtout comment il s'était articulé au fur et à mesure des années, de l'appeler pour lui dire « Écoute, voilà Jérôme ». Donc j'ai passé l'été 24 à tout recenser avec les équipes du moindre petit projet que j'avais pu réaliser. On lui a transféré la présentation et il est revenu avec une copie en articulant l'exposition sur plusieurs chapitres. Il y a un chapitre évidemment à Versailles, parce que Versailles, ça a été mon premier terrain de jeu créatif, quelque part. Sophie Kahl, qui a un espace très singulier, parce que c'est une rencontre déterminante pour la suite de ma carrière, en tout cas, on va dire peut-être, de ses relations et de ses conversations. Un rapport à la musique très fort. Klaus Makela, Katia Marie Labeck, David Chadmin, avec notamment une conversation avec Philippe Glass. Ce qui manque peut-être le plus, c'est peut-être la danse. Curieusement, parce qu'il y a une seule référence à la danse et on n'a pas trouvé beaucoup de traces. C'était un ballet olfactif que j'avais fait avec Christian Rizzo, mais j'avais pas beaucoup de traces. Et peut-être que la danse, elle est plutôt peut-être en filigrane dans ma carrière et dans ma vie, comme étant l'école de la discipline ultime pour en avoir pratiqué, pour l'avoir pratiqué pendant 20 ans. C'est peut-être ce qui m'accompagne tous les jours. Et aujourd'hui, de mon bureau, j'ai une magnifique vue sur l'Opéra de Paris.
Il était apprécié de Marie-Antoinette, puisque vous êtes en train de me poser la question. C'est Gluck, sonate en trio numéro 3 en la majeure, dirigée par Martin Gester. Et alors la question est la suivante, Francis Curdjian, pour votre exposition. Et avant cela, comment avez-vous recomposé la fragrance Sillage de la Reine de Marie-Antoinette ?
Alors, petite rectification historique.
Bien sûr.
A posteriori, puisque l'histoire, surtout l'histoire, l'histoire ancienne, est toujours une histoire en mouvement. Le parfum qui, à l'époque, on avait annoncé comme étant un peu le parfum de Marie-Antoinette, il n'y a aucune trace ne dit qu'elle ne l'a porté, ce parfum. L'idée était de trouver une évocation olfactive de ce qu'aurait pu être un parfum de l'époque. C'est dans cet esprit-là que j'avais travaillé, c'est en consultant des formules historiques qui ont été composées par un parfumeur qui s'appelle Jean-Louis Fargeon. J'ai appris plus tard qu'il fallait différencier être parfumeur à Versailles de parfumeur de Versailles, comme quoi la langue française, en tout cas dans ses nuances, est très importante, puisque quand vous êtes parfumeur de Versailles, ça sous-entend que vous parfumez la cour, voire le roi et la famille royale, mais quand vous êtes un parfumeur à Versailles, c'est juste que vous êtes un parfumeur versaillais. Ce qui n'a...
Non, en effet.
Rien à voir. Au-delà de cette petite nuance, c'est quoi un parfum Marie-Antoinette ? Déjà, c'est un parfum 100% naturel, avec des ingrédients naturels, parce que l'ingrédient synthétique arrive dans la palette du parfumeur à la fin du 19e siècle, vers 1880. Le premier corps aromatique de synthèse a été synthétisé, a été fabriqué vers 1830, et c'est un composant de la cannelle, ça s'appelle l'aldide cinnamique, cinnamon, comme la cannelle. Qui sent donc un peu c'est le principe olfactif pur de la cannelle. C'est une cannelle très dure et très raide, comme ça. Mais il a fallu beaucoup de temps pour que les parfumeurs apprivoisent ces nouveaux corps synthétiques. Un peu comme si tout d'un coup vous confiez à Mozart un synthétiseur, oui. Et que malgré le talent qu'il a, il est un peu perturbé parce qu'il faut apprivoiser ces nouveaux sons. Et il a fallu aux parfumeurs plusieurs dizaines d'années pour apprivoiser ces corps très violents qui permettait également de faire des parfums qui tenaient très longtemps, ce qui veut dire que le parfum sillage de la reine, tel qu'il était conçu à l'époque, au XVIIIe siècle, tenait pas beaucoup.
Bon, alors j'imagine que le vôtre tient plus. Vous avez parfumé.
Non, pas plus, parce que j'ai recomposé plus. D'accord. L'idée de l'exigence de ce qu'était un parfum de l'époque.
Très bien.
Pardon.
Vous avez parfumé des bulles, vous avez parfumé des fontaines. Et là, il y a une eau parfumée à boire, oui. Intitulée L'or bleu, élaborée en collaboration avec l'artiste Yann Thomas.
Tout à fait.
Qu'est-ce que c'est que ça ? L'or bleu, on pense évidemment au pétrole.
L'or noir ?
Ah oui, l'or noir, pardon. Non, parce que je pensais à l'album, l'album de Tintin.
Oui, tout à fait. Mais
qui s'appelle L'or noir, donc.
Oui.
Alors, qu'est-ce que c'est l'album avec bleu de... Allez, je vais pas m'en sortir. Allez, sauvez-moi. Allez-y.
Ce qui est beau avec les artistes, et je ne prétends pas en être un, mais Yann Thomas en est définitivement un, c'est une forme de vision sur l'état du monde. Et quand je le rencontre à New York et qu'il me parle de son projet sur l'eau, sur l'idée que l'eau devient quelque chose de rare, on est bien avant ce que l'on peut écouter et entendre aujourd'hui. Et c'était très intéressant d'échanger avec Yann, qui est devenu un ami depuis, et on s'est lancé dans cette aventure complètement à la croisée entre le surréalisme... quelque chose de très fort, en fait. Et je serais entièrement reconnaissant d'avoir, et c'est ce que j'adore dans ces rencontres avec chacun de ces artistes que j'ai rencontrés, de pouvoir exhaler en moi une facette de ma personnalité que moi seul je ne le ferais jamais. Et avec Yann, c'était cet esprit un peu Duchamp, surréaliste, où tout d'un coup on va projeter une vidéo, mais qui est encore sur YouTube, mais un truc complètement improbable qu'on a tourné dans mon salon avec une équipe. Mais c'était fabuleux parce que j'avais l'impression de recréer ces collectifs un peu artistiques, un peu à la limite du dadaïsme, vous savez. Mmh. Et donc, c'est toi à boire, c'est quoi ? C'est un hommage à un parfum très connu dans le domaine de la parfumerie, en tout cas une recette très connue de la parfumerie qui s'appelle l'eau de la reine de Hongrie. Donc, on est vers 1180, on est vers 1190, 92. Pardonnez-moi la date, elle n'est pas vraiment exacte. Je ne veux pas me faire agresser parce que...
Mais je vous pardonne parce que j'étais pas née non plus. Hein.
Voilà.
Je suis un signal.
Et donc, c'est la reine d'Hongrie qui donne son eau à cette eau bienfaitrice, bienfaisante. Et elle en fait un tel usage que cette reine de plus de 80 ans rajeunit tellement.
Je suis la reine d'Hongrie, je vous l'annonce ce soir.
Pas vraiment. Je ne pense pas parce que vous allez voir la chute. Attendez, la chute, Eva. Attendez, la chute, Eva. Parce que cette reine de 80 ans rajeunit tellement qu'elle... vient à épouser le prince de Pologne qui était son aîné de plus de 30 ans.
Mais écoutez, je suis à moitié polonaise, donc je pense que je suis la reine de Hongrie.
Très bien, donc vous êtes la cougar de France Inter.
Écoutez, calmez-vous.
Et donc, voilà, donc l'eau de la reine, donc l'or bleu, c'est un peu ce croisement entre cette chose un peu très conceptuelle, évidemment, mais qu'on va pouvoir expérimenter. On a recomposé l'arôme que j'avais créé à l'époque, et il va être... à disposition dans des bonbonnes d'eau, Voilà.
Très bien. Est-ce qu'il y a de l'alcool dedans ?
Non, pas du tout.
D'accord. La belle haleine eau de voilette de Marcel Duchamp. Il paraît que c'est une de vos inspirations.
Oui, parce que ça rentre dans cette idée très entre le surréalisme et le dadaïsme. C'est tout à fait, oui, tout à fait. On a travaillé dans cet esprit-là.
Le noir, pour moi, a des qualités picturales. C'est-à-dire une couleur forte, une couleur violente. On met un noir sur une couleur sombre, brusquement... la couleur sombre, c'est clair. Puis un jour, je me suis aperçu que j'étais en train de rater un tableau. Je pataugeais dans une espèce de marécage noir depuis quelques heures et je n'ai pas compris ce qui se passait. Je me suis dit, c'est curieux, je poursuis quelque chose comme ce que j'ai dû déjà faire et il y a quelque chose de beaucoup plus fort en moi qui fait que je continue, bien que je pense que ce que je fais est mauvais. Je me suis aperçu que je ne travaillais plus avec du noir, que je travaillais avec la lumière réfléchie par des états de surface du noir. Ce qui est encore un autre phénomène, ce n'est pas le phénomène du contraste, comme quand j'étais enfant et que je faisais de la neige en mettant du noir sur du papier blanc, pour rendre le papier plus blanc. Et j'ai, à ce moment-là, créé le mot « outre-noir » à l'image de « outre-Rhin », « outre-Manche », « outre-Atlantique » désigne un autre pays. « Outre-noir » désigne un autre pays que celui émotionnel du noir simple. C'est la définition du champ mental atteint par ce phénomène-là. Le phénomène de la lumière réfléchie par la surface de la couleur qui est par définition la plus grande absence de lumière, le noir.
J'ai voulu qu'on entende Pierre Soulages parler du noir. Là, il est sur France Inter en 2014 parce que vous dites, Francis Curdjian, que les personnalités qui vous inspirent le plus sont davantage issues du monde de l'art que celui de la parfumerie. Et il y a parmi elles, notamment, Pierre Soulages. vous dites que ça vous ouvre des univers, comme la lumière de James Turrell, par exemple.
Tout à fait. Alors, j'ai eu des maîtres en parfumerie qui m'ont enseigné l'art de la composition, qui m'ont donné des trucs de maître à élève, que je transmets moi parfois en évoquant qu'un tel parfumeur, aujourd'hui à la retraite, m'a dit que ce que j'aime éperdument dans certains artistes, et ce que je trouve chez certains artistes, ce sont des réponses à certaines questions que je me pose. Et que je ne les ai pas dans les... Il y a peu de manuels de parfumerie, il n'y en a pas. Et ce sont des réponses que je ne trouve pas et que je n'ai pas trouvées avec mes pères et avec mes maîtres. Et que ces réponses, je vais les chercher, oui. Je trouve que l'articulation de Pierre Soulages, qui différencie l'artisanat de l'art, pour moi, elle est majeure. Des réponses de Sylvie Guillem, grande danseuse, grande ballerine, quand elle explique sa réinterprétation de ballet du XVIIIe siècle. Pour moi, c'est puissant parce que la réinterprétation d'un thème ancien, c'est finalement ce à quoi je suis confronté parfois quand je dois prendre l'accord ambré tel qu'il était composé à la fin du 19e siècle et comment moi en redonner une lecture contemporaine. Parce que si le parfum est un art, alors il faut le considérer comme tel, c'est-à-dire qu'il faut connaître le patrimoine, connaître l'histoire, mais c'est pas juste dire Louis XIV portait une fleur d'oranger, c'est aussi essayer de comprendre dans le livre et dans les livres de l'époque, comment les fleurs d'oranger étaient composées.
Alors, j'interviens juste pour dire que parfum, ça vient du latin perfumum, qui signifie par la fumée. Oui. C'était la façon qu'avaient les Grecs d'obtenir des senteurs à l'Antiquité, vous allez voir où je veux en venir. Et vous avez créé le fonds de dotation perfumum, justement pour valoriser ce patrimoine olfactif.
Tout à fait. Tout à fait, c'est important parce que les parfums. Alors surtout, moi je suis d'une génération où les parfumeurs ont bénéficié d'une exposition médiatique, et la prochaine génération, ça sera encore plus important, et on le voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux, les TikTok, les Instagram, comment le parfum est comme ça devenu viral. Mais il y a toute une génération de parfumeurs taiseux, silencieux. Je pense au parfumeur Jean Carléo, qui a créé une institution fabuleuse qui s'appelle l'Osmothèque à Versailles, qui a été le parfumeur de la maison Jean Patou. Il y a peu d'interviews de ces parfumeurs de cette génération-là, ou plus proches de nous. Un maître que je considère éperdument comme Pierre Bourdon, par exemple. François Scargon, grand parfumeur également. Voilà, je peux en citer beaucoup, beaucoup. Ils n'ont pas eu l'exposition médiatique, c'était des parfumeurs qui étaient en retrait de cette vie-là, et finalement, ils ont beaucoup à dire, beaucoup à raconter, et j'étais un peu, aussi personnellement, en manque de cette transmission, puisque la formation aujourd'hui des parfumeurs, elle se fait certes de maître à élève, mais dans des sociétés, dans des sociétés qui font de l'argent, en fait. Et on passe pas comme un compagnon d'une maison à l'autre, on passe pas comme un compagnon d'un parfumeur à l'autre. On est un peu comme une forme d'endoctrinement avec un maître qui va vous inculquer la parfumerie. Mais la beauté du métier, c'est d'être comme si on était dans une forme d'atelier. Donc j'ai effectivement Perfumum, ce fonds de dotation que j'ai créé maintenant il y a 5-6 ans, est une opportunité. Donc on filme, c'est audiovisuel, on filme au kilomètre des témoignages de grands témoins de leur métier. Et je suis heureux aujourd'hui d'avoir presque plus de 50 témoignages de ces grands parfumeurs. Et on trace leurs portraits qui vont de par quel biais de vous rentrer dans le parfum, comment avez-vous appris, quelles ont été vos réalisations, et surtout aussi, qu'est-ce que vous voulez laisser aux prochaines générations.
Qu'est-ce que vous voulez laisser aux prochaines générations?
Moi?
Oui.
Déjà, je ne laisserai pas grand-chose parce que le parfum, mes créations finiront, les créations commerciales finiront un jour ou l'autre par être démodées. Donc s'il y a un musée, peut-être qu'elles seront relativement assez bonnes pour être au musée. Ce que j'espère surtout laisser à mes confrères parfumeurs ou à la prochaine génération, ce que j'essaie de montrer aussi avec l'exposition, c'est de dire que l'odeur peut être travaillée comme un médium sensoriel, comme un médium artistique, au même titre que finalement l'image. Ça peut être un photographe peut à la fois faire un photoreportage d'une guerre, il peut faire les portraits d'une famille, il peut faire mais également des clichés artistiques qu'on va exposer dans une galerie d'art, et peut-être que le parfum un jour aura droit aussi à sa galerie d'art en fait.
I'm going to a town that has already been burnt down.
I'm going to a place that has already been disgraced. I'm gonna see some folks who have already been let down. I'm so tired of America. I'm gonna make it up for all of the Sunday times. I'm gonna make it up for all of the nursery rhymes. They never really seem to want to tell the truth. I'm so tired of you, America, making my own way home. Ain't gonna be alone. I've got a life to live, America. I've got a life to live. Tell me, do you really think you'd go to hell for having love? Tell me enough to forget everything that you've done is a good. I really need to know, after soaking the body of Jesus Christ in blood. I'm so tired of you, America.
Votre choix musical, Francis Kurdjian, une reprise d'un titre de Rufus Wainwright par George Michael, Going to a Town.
Tout à fait.
Vous voulez commenter ou vous voulez...
Non.
Ok, eh ben, parlons de réalité virtuelle.
Très bien.
Dans votre exposition, il y a quelque chose qui a l'air assez fabuleux, avec notamment, élaboré avec notamment Cyril Tess, pour lequel vous avez imaginé beaucoup d'odeurs pour des pièces.
Tout à fait.
Je vous laisse raconter.
Cyril est venu me chercher plusieurs fois, et notamment pour une pièce qui s'appelle Eden. Eden est un film d'une douzaine de minutes en réalité virtuelle. Et au moment où Cyril me parle de cette idée, j'imagine que cette pièce, il lui manque l'odeur. Et depuis 3-4 ans maintenant, après avoir fait des tentatives un peu ratées sur des process et des dispositifs olfactifs qu'on pouvait connecter à la VR, ça me plaisait pas, je trouvais rien qui ne fonctionnait à mon goût et avec la précision que je cherchais. J'ai réuni autour de moi une équipe de talents chevronnés, de jeunes hyper dynamiques, pour créer un dispositif que j'ai baptisé le V-Scent, comme Virtual Scent, qui se connecte soit sur un casque de réalité virtuelle, soit sur un casque de réalité augmentée. Et au moment où on regarde et on se plonge dans des films avec des casques, on peut diffuser de manière mais tellement fine, tellement délicate, comme si on respirait. On diffuse des odeurs qui se mélangent, qui s'assemblent, qui sont à la fois soit très subjectives, soit très figuratives. Ça dépend des films et des circonstances. Et là, on propose Eden tel qu'il a été composé, tel qu'il a été imaginé par Hugo Arcier également, qui est un artiste, un très grand artiste français du digital. Cyril Tess et ce trio, on repropose aux clients avec ce nouveau casque V-Scent. C'est pour montrer aussi que le parfum peut être projeté aussi dans le 21e siècle. C'est-à-dire, on mentionnait Versailles, le 18e, le 17e, les Latins, les Grecs et l'Antiquité, on peut remonter très loin comme ça. Mais pour moi, l'avenir, c'est devant. C'est bête à dire, mais l'avenir du parfum, c'est important aussi.
Moi, je pensais à John Waters et à son film en odorama. Je crois que c'était
fabuleux.
Polyester,
exactement.
C'est ça ? Ouais,
tout
ça m'a fait penser à ça. Merci beaucoup, Francis Kurdjian.
Merci, Vabester.
Je rappelle que du 29 octobre au 23 novembre prochain, le Palais de Tokyo célébrera vos 30 ans de création à travers l'exposition Parfum, sculpture de l'invisible, accessible gratuitement sur inscription via le site du musée. Cette émission a été réalisée avec brio par Mathias Volant, préparée par Céline Villegas, Fanny Leroy et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Laurent Baudouin.